Chapitre 17. À l'abordage. Même dans les meilleures circonstances, il n'est pas facile d'accoster une épave spatiale qui ne fait rien pour vous aider. Cela peut même devenir on ne peut plus dangereux. Walter Curnow en était conscient, de façon abstraite, mais il le ressentit réellement dans la moelle de ses os quand il vit les 100 mètres de long de Discovery culbuter sans fin dans l'espace, tandis que Leonov se tenait prudemment à distance. En quelques années, la friction avait ralenti la rotation du carrousel, les gyroscopes de Discovery transférant ainsi leur vitesse acquise à la structure tout entière. Et maintenant, comme un bâton de majorette au fait de sa trajectoire, le vaisseau abandonné roulait lentement cul par-dessus tête sur son orbite. Le premier problème était de mettre fin à ces culbutes qui rendaient Discovery non seulement incontrôlable, mais aussi presque inapprochable. Dans le sas, accompagné par Max Brailovski, et tout en mettant sa combinaison, Curnow avait un sentiment inhabituel d'incompétence et même d'infériorité. Ce n'était pas son genre de travail. Il le leur avait dit d'un ton lugubre. « Je suis un ingénieur spatial, pas un singe de l'espace. » Mais il fallait le faire. Il était le seul capable de sauver Discovery des griffes d'Io. Max et ses collègues, devant travailler sur des machines et des circuits qui ne leur étaient pas familiers, prendraient beaucoup trop longtemps. Quand ils seraient en mesure de relancer les moteurs et de contrôler le vaisseau, il aurait déjà sombré dans les lacs de soufre en fusion qui l'attendaient.
« Tu n'as pas peur, n'est-ce pas ?»
demanda Max quand ils s'apprêtèrent à mettre leur casque.
« Pas assez pour salir ma combinaison. Tout juste. »
Max gloussa.
« Pour moi, c'est ce qu'il faut pour ce genre de boulot. « Mais ne t'inquiète pas, je vais te poser là-dessus en un seul morceau avec mon… comment appelles-tu ça ?»«
Manche à balai. Parce qu'il paraît que les sorcières s'en servent. »«
Oh, oui. Et tu t'en es déjà servi ?»«
J'ai essayé, une fois, mais il est parti sans moi. Tout le monde a trouvé ça très drôle. »
Certaines professions ont inventé pour leurs propres besoins des outils uniques et caractéristiques. Le crochet des dockers, le tour du potier, la truelle du maçon, le marteau du géologue. Les hommes qui devaient passer la plus grande partie de leur temps en apesanteur sur les chantiers spatiaux avaient inventé le manche à balai. C'était très simple. Une tige télescopique d'un mètre avec un repose-pied à un bout et une boucle à l'autre. En appuyant sur un bouton, elle s'allongeait d'un seul coup de 5 ou 6 fois sa longueur et l'amortisseur intérieur permettait, avec un peu d'habileté, les manœuvres les plus extraordinaires. Le repose-pied pouvait aussi se changer au besoin en pince ou en crochet, et il existait d'autres perfectionnements, mais la structure de base restait la même. Cela paraissait étonnamment facile d'emploi. Grave erreur. Les pompes du sas avaient fait le vide, la lampe de sortie s'alluma, les portes extérieures s'ouvrirent, et ils dérivèrent lentement dans le vide. Discovery tournoyait à environ 200 mètres. Les accompagnant dans leur circuit autour d'Io qui remplissait la moitié de leur champ de vision. Jupiter était invisible, caché par le satellite. C'était un choix qu'ils avaient fait. La petite lune leur servait d'écran et les protégeait des radiations qui suivaient le champ magnétique reliant les deux planètes. Même ici, le niveau des radiations était trop élevé et ils ne pouvaient rester qu'un quart d'heure avant d'avoir à se mettre à l'abri. Presque aussitôt, Curnow découvrit que sa combinaison lui posait un problème.
Elle m'allait bien en partant de la Terre, se plaignit-il. Mais j'ai l'impression d'être un poids sec dans une gousse.
C'est bien normal, Walter,
intervient le chirurgien Rudenko sur leur fréquence.
Vous avez perdu 10 kilos en hibernation. Vous pouviez bien vous le permettre. Et vous en avez déjà repris 3.
Avant que Curnow ait trouvé la bonne réplique, il se sentit écarté doucement mais fermement de Leonov.
Détends-toi, Walter, dit Brailovski. « Ne te sers pas de ton propulseur, même si tu fais des cabrioles. Laisse-moi faire tout le travail. »
Curnow aperçut les jets de gaz presque invisibles sortant du paquetage de son équipier, dont les minuscules réacteurs les poussaient vers Discovery. Chaque petit nuage de vapeur était accompagné d'une secousse sur le câble qui les reliait, et ils se rapprochaient de Brailovski. Une autre traction survenait avant qu'ils ne l'atteignent, et il avait l'impression d'être un yo-yo, jouet de nouveau à la mode sur la Terre, secoué au bout de sa ficelle. Il n'y avait qu'une seule manière d'approcher sans danger de l'épave, en suivant l'axe autour duquel elle pivotait majestueusement. Le centre de rotation se trouvait à peu près au milieu du vaisseau, près de l'antenne principale, et Brailovski se dirigeait droit dessus en remorquant son partenaire angoissé. « Comment va-t-il pouvoir nous arrêter à temps tous les deux ?» se demanda Curnow. Discovery était maintenant une haltère gigantesque qui fouettait lourdement le ciel. Il lui fallait plusieurs minutes pour accomplir une révolution, mais les extrémités se déplaçaient à une vitesse impressionnante. Curnow essaya de les ignorer et de se concentrer sur le centre, immobile, qui se rapprochait.
« C'est là que je vais !» dit Brailovski. « N'essaie pas de m'aider et ne t'étonne de rien de ce qui peut arriver. »
Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Se demanda Curnow, essayant de se préparer à n'importe quelle surprise. Tout se passa en 5 secondes. Brailovski déclencha son manche à balai, qui s'allongea de 4 mètres, et toucha la coque du vaisseau. Le manche commença à se rétracter, son ressort absorbant la vitesse acquise par Brailovski. Mais au lieu de le laisser se poser près du support d'antenne, comme l'avait cru Curnow, le manche s'allongea aussitôt et renvoya le Russe à une vitesse inverse, de sorte qu'il rebondit du Discovery aussi vite qu'il s'en était approché. Il frôla Curnow en s'élançant de nouveau dans l'espace, le manquant d'un cheveu. L'Américain, surpris, eut à peine le temps de voir son large sourire au passage. Une seconde plus tard, il sentit le câble se tendre avec une secousse et le freiner brutalement. Leurs vitesses s'annulèrent et ils se retrouvèrent virtuellement immobiles par rapport à Discovery. Curnow n'avait plus qu'à tendre la main vers la poignée la plus proche et à les faire aborder tous les deux.
As-tu déjà essayé la roulette russe ?
Demanda-t-il quand il eut retrouvé son souffle.
Non ? Qu'est-ce que c'est ? Je te l'apprendrai un jour. C'est presque aussi bien que ça pour guérir de l'ennui.
Walter ! « Vous ne suggérez pas, j'espère, que Max aurait fait quelque chose de dangereux. »
Le docteur Rudenko avait l'air vraiment choqué et Curnow décida qu'il ferait mieux de ne pas répondre. Parfois, les Russes étaient imperméables à son humour.
« On aurait pu s'y tromper. »
marmonna-t-il entre ses dents sans qu'elle puisse l'entendre. Maintenant qu'ils étaient solidement cramponnés au milieu du moulin à vent qui était devenu Discovery, il ne se rendait plus compte de sa rotation, surtout quand il gardait les yeux sur la partie de la coque qu'il avait devant lui. L'échelle qu'il voyait courir le long du mince cylindre métallique, constituant la structure principale du vaisseau, était son prochain objectif. Le module de commandement, tout au bout, lui paraissait à plusieurs années-lumière, bien qu'il sût parfaitement qu'il n'était qu'à 50 mètres.
« Je passe le premier !»
dit Brailovski en enroulant le câble qui les reliait l'un à l'autre.
« Rappelle-toi !» Ici, on est en haut. On ne peut que descendre. Mais c'est sans problème. On peut se tenir d'une seule main. Même au bout, il n'y a qu'un dixième de G. Ce qui est, comment dites-vous, du pipi de chat ?
Je crois que tu veux dire roupie de Sansonnet.
Mais si cela ne te fait rien, j'irai les pieds devant. Descendre une échelle la tête la première ne m'a jamais tellement plu, même en faible gravité.
Curnow se rendait parfaitement compte qu'il était essentiel de garder le ton de la plaisanterie pour ne pas se sentir tout bonnement submergé par le mystère et le danger de la situation. Il se trouvait à presque 1 milliard de kilomètres de chez lui, sur le point de pénétrer dans l'épave la plus célèbre de toute l'histoire de l'exploration spatiale. Un jour, un journaliste avait appelé Discovery la Marie Céleste de l'espace, et la comparaison n'était pas mauvaise. Mais elle ne décrivait pas, de loin, ce que cette situation avait d'unique. Même s'il réussissait à ignorer le paysage de cauchemar qui remplissait la moitié du ciel, il avait sous les yeux le rappel constant de son existence. Chaque fois qu'il touchait les barreaux de l'échelle, son gant faisait lever un petit nuage de soufre pulvérisé. Brailovski avait raison, naturellement. L'effet centrifuge provoqué par la culbute sans fin du vaisseau était facile à négocier. À mesure qu'il s'y habituait, Curnow appréciait même le sens de l'orientation que la gravité lui apportait. Brusquement, ils se retrouvèrent sur la grande sphère de métal terni qui constituait l'habitacle et le centre de contrôle de Discovery. À quelques mètres à peine, il y avait une écoutille de secours, celle-là même, se rappela Curnow, par où Bowman était passé avant sa dernière confrontation avec Hal.
J'espère qu'on peut entrer, marmonna Brailovski. Dommage de venir de si loin pour trouver la porte fermée à clé.
Il essuya le soufre qui recouvrait le panneau de contrôle du sas.
« Fonctionne pas, bien sûr. J'essaye les commandes ?»«
Peut pas faire de mal, mais cela ne donnera rien. »«
Tu as raison. Bon, mettons-nous à l'ouverture manuelle. »
Curnow fut fasciné par la mince ouverture qui se dessina sur la courbure de la coque. Une bouffée de vapeur se dispersa dans le vide, projetant au loin un morceau de papier. Était-ce un message d'importance vitale ? Il n'en saurait jamais rien. Le papier s'éloigna dans une culbute minuscule et se perdit vers les étoiles. Brailovski continua d'actionner le volant d'ouverture manuel pendant ce qui leur parut un très long moment avant de découvrir entièrement la caverne obscure et menaçante du sas. Curnow avait espéré que l'éclairage de secours au moins aurait fonctionné. Pas de chance.
« C'est toi le patron maintenant, Walter. Bienvenue en territoire US. »
L'intérieur qu'il parcourut du faisceau lumineux venu de son casque en y descendant n'avait rien d'engageant. D'après ce qu'il voyait, tout était en bon état. « Que croyait-il donc trouver ?» se dit-il presque en colère. Ce fut encore plus long de refermer le sas que de l'ouvrir, mais il n'y avait pas d'autre solution tant que le courant ne serait pas rétabli. Juste avant la fermeture complète, Curnow risqua un œil sur le paysage dément du satellite. Un lac bleu et scintillant s'était creusé près de l'équateur. Curnow était sûr qu'il n'existait pas quelques heures plus tôt. Sur les bords dansaient des flammes jaunes, éclatantes, de la couleur caractéristique du sodium incandescent, et toute la face nocturne était parcourue d'un éclair fantomatique, une des aurores magnétiques illuminant Io presque en permanence. C'était fait de la substance de cauchemars à venir. Et comme si ce n'était pas assez, il y avait une dernière touche digne du plus fou des artistes surréalistes. Venant poignarder le ciel noir, paraissant jaillir directement des fournaises intérieures du satellite, il y avait une corne immense, incurvée, comme celle que peut apercevoir un torero à la minute de vérité, à l'instant de sa mort. Le croissant de Jupiter montait dans le ciel pour accueillir Discovery et Leonov, enchaînés sur une même orbite.